France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
L'actualité parfois se cogne dans les coins dans la même semaine pendant que la France multiplie les opérations PlaceNet XXL pour lutter contre le trafic de drogue. L'Allemagne, le plus grand pays d'Europe, légalise donc la vente de cannabis, coup d'envoi hier 1er avril. Les conditions sont assez strictes, on y reviendra. Mais cette légalisation, qui n'a pas été sans opposition, vient d'un constat assez simple. La politique d'interdiction a échoué. Les trafics, une marchandise de piètre qualité, la police sursollicitée pour un travail de Sisyphe. Nous aussi en France, bien sûr, nous avons débat qui pour l'instant se heurte à une farouche opposition côté autorité. Ça ne date pas de ce gouvernement. Le constat, cela dit, est assez peu reluisant. Nous avons une politique restrictive parmi les plus dures et nous avons aussi le plus grand nombre de fumeurs en Europe avec 45% des 18-64 ans qui ont consommé du cannabis une fois dans leur vie, au moins contre 27% dans le reste de l'Europe. Alors est-ce que légaliser règle tous les problèmes? Pour le savoir, il faut regarder ceux qui ont été peut-être un peu plus aventureux que nous le sommes. Aux États-Unis par exemple, les mineurs consomment moins mais les majeurs plus. Le trafic n'a pas disparu. Le cannabis est taxé, si bien que les populations défavorisées fournissent encore sur le marché noir qui est bien moins cher. Et les gros trafics, eux, se sont tournés vers l'héroïne ou vers les opiacés. On verra ce qu'il faut en penser. D'autres expériences, et c'est le choix de l'Allemagne par exemple, parlent d'un meilleur contrôle des substances, donc d'une meilleure qualité. On verra d'ailleurs comment on contrôle la teneur en THC, le psychotrope. Les pays qui se lancent ou se sont lancés parlent aussi d'une prise en charge facilitée pour les addicts. La question est de savoir si c'est vraiment aussi simple que ça. Comment les plus faibles sont-ils réellement protégés? Si la légalisation était l'alpha et l'oméga de la lutte contre les trafics et la protection des utilisateurs, évidemment que bien plus que 3 pays des 27 pays européens, bien plus que 19 États américains sur 50 y seraient mis aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, la France ne va pas dans ce débat, mais nous, oui, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mathias, vous êtes le premier, vous êtes à Rouen et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, moi j'ai fumé quand j'étais jeune, j'ai 55 ans maintenant, je fume plus, mais j'ai fumé à une époque qui est toujours celle qu'on vit aujourd'hui, d'un discours très manichéen, où les parents c'était « oh là là, attention, le cannabis c'est de la drogue, c'est la porte d'entrée vers l'héroïne », et puis ce que je vivais avec les jeunes de mon âge, c'est la fête, et il n'y a pas de dépendance. Et puis ma fille qui est en troisième année de médecine m'a dit dernièrement, mais avec le contexte familial de sensibilité psychiatrique avec des schizophrènes, des bipolaires, t'as pris des énormes risques en fumant. Moi, je fumerais pas. Et du coup, voilà, je me dis, mais on a toujours eu un discours manichéen, aucune prévention et aucune possibilité d'avoir un discours un peu sérieux sur le cannabis. Je trouve ça pathétique, quoi, parce que y a sans doute des gens qui en ont subi les conséquences, et ça semble vraiment pas très adulte, tout ça, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Mathias, pour cette première remarque et cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 19h avec nous. Il y a Caroline Janvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Renaissance du Loiret, vous êtes rapporteuse du volet récréatif de la mission d'information sur la réglementation des différents usages du cannabis. Il y a Jean-Claude Alvarez avec nous également, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes-vous le directeur du laboratoire de toxicologie du CHU de Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine. On aura la maire de Strasbourg au téléphone dans un petit instant également, puisqu'il y a une expérimentation qui peut se mettre en place à Strasbourg. Est-ce que vous diriez, vous aussi, Caroline Janvier, au fond, que Mathias, il emploie le mot de... il dit, il n'y a pas eu de discours, réellement, il n'y a pas vraiment eu de débat. Est-ce qu'on a botté en touche est-ce qu'il manque ce débat chez nous, réellement voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on fait les autres, voilà là où effectivement c'est dangereux, voilà où ça l'est moins. Est-ce qu'au fond, on a refusé l'obstacle?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on a eu une approche idéologique du sujet avec beaucoup de fantasmes, d'amalgames et même de méconnaissances du sujet du cannabis, des risques que présente sa consommation, mais aussi de la meilleure politique publique pour gérer ce phénomène-là qui est un phénomène massif. Mmh. En France, c'est 5 millions de consommateurs ouais. occasionnels, c'est près de 700 tonnes par an et la seule réponse aujourd'hui qui me semble un peu simpliste, c'est l'interdiction.
Il dit, notre auditeur, qu'on a finalement eu un débat manichéen. C'est tout noir ou tout blanc, c'est tout bien ou tout mal.
Oui, et surtout, on se place beaucoup sur le plan de la morale en disant c'est une drogue, elle présente des risques, donc il nous faut l'interdire et cela suffit. Et en faisant cela, on ne protège pas les jeunes, on ne contrôle pas les taux de THC, on ne met pas en place de politique de santé publique et on échoue aussi à gérer les trafics d'armes, le proxénétisme, qui sont les corollaires du trafic de drogue.
Alors on va y venir, bien sûr, Jean-Claude Alvarez, vous qui êtes le directeur du laboratoire de toxicologie du CHU de Garches, vous vous placez pas sur le plan de la morale, vous vous placez sur le plan de la médecine tout simplement. Est-ce que, au fond, pour vous aussi, est-ce que vous diriez que les médecins aussi ont participé à cette manière d'aborder le sujet, c'est-à-dire que vous, de votre point de vue, c'est de la drogue, c'est dangereux, donc il faut absolument pas y toucher, pas toucher à la légalisation. Est-ce que vous aussi, vous vous dites parfois, bon, ok, allons-y dans le débat, mettons les deux pieds dans le plat, plutôt que de tourner autour du pot comme on le fait aujourd'hui?
Ce qui vient d'être dit est assez juste. Ce que je trouve dommage, c'est même de la part des confrères, hein, médecins, malheureusement, on ne parle que de répression ou de légalisation, on ne parle jamais d'éducation et de prévention. Mmh. On manque de prévention en France, je veux dire. Chaque fois, on nous dit, c'est parce que c'est interdit, comme c'est interdit, on n'a pas le droit d'en parler. Mais je ne comprends pas, moi, ce slogan. On peut dire que c'est interdit parce que c'est dangereux.
Là, on le fait pour l'alcool. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour le cannabis.
Exactement. On n'a aucune publicité sur les méfaits du cannabis. Je n'arrive pas à comprendre, moi, cette politique de non-prévention. En France, on oublie la prévention. Donc, faisons de la prévention. Éduquons nos enfants. Il faut leur expliquer que c'est dangereux, ce qui a été dit tout à l'heure par votre premier intervenant. C'est tout à fait vrai. Il a pris des risques. Et c'est sa fille de troisième année de médecine qui lui fait comprendre. Mmh. Attention, il y a des risques sur des terrains schizo. On va déclencher des schizophrénies. Aujourd'hui, on est en train de voir que finalement, ça aurait probablement des effets cardiovasculaires également, des effets sur le cancer. Ça accentue les effets du tabac. Donc, voilà, il faut faire de la communication, de la prévention, même si on le garde interdit. On n'est pas obligé de le légaliser pour pouvoir communiquer sur la dangerosité du produit.
Une question avant qu'on enchaîne, Jean-Claude Alvarez, puisque vous l'avez évoqué et on y viendra au cours de cette discussion. Est-ce que tout ce que vous dites sur les préventions, et notamment lorsqu'il y a un terrain qui n'est pas un terrain favorable de maladie mentale, vous parliez de schizophrénie, vous parliez de certains cancers, etc., si le taux de THC est différent et bien plus bas, donc si on arrive à contrôler la marchandise en fait, est-ce que ça change médicalement des choses ou est-ce que pour vous, du point de vue médical, ça change pas grand-chose?
Oui, probablement, puisqu'on voit bien qu'il y a une augmentation de tous les méfaits du cannabis et c'est probablement lié à l'augmentation du THC. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui aujourd'hui utilisent du cannabis avec 15% de THC, c'est-à-dire de tétrahydrocannabinol, la substance active, vous les ferez pas repasser à 5%. Regardez ce qui s'est passé en Uruguay. On a voulu faire exactement la même chose. Je comprends pas qu'on regarde pas ce qui se passe à l'étranger. On a commercialisé du 5%. Personne n'allait acheter du 5%. Donc, ils ont été obligés maintenant de commercialiser du 15%. Voilà. Donc, on en arrive au même taux qu'il y a dans la rue.
On va revenir au standard dans un petit instant, mais je voudrais votre réaction là-dessus, Caroline Janvier, parce que tous les pays qui légalisent, et c'est vraiment le cas de l'Allemagne en ce moment, partent aussi du principe que on aura de la meilleure qualité, on aura surtout un cannabis qui sera moins violent, qui sera moins fort, qui sera plus près de ce qu'on consommait nous quand on avait 20 ans que ce qu'on consomme les jeunes aujourd'hui, qui est beaucoup plus fort. Et c'est intéressant ce que nous dit Jean-Claude Alvarez, parce que quand on était habitué à très haut, on redescend pas à des taux qui sont bas, donc effet zéro en fait, ou en tout cas effet négatif.
Alors deux choses, d'abord sur la question de la prévention. Moi j'ai discuté avec beaucoup d'associations qui luttent contre les addictions et des addictologues qui nous disent que les jeunes qui ont un problème avec leur consommation de cannabis, qui souhaiteraient se faire accompagner, n'osent pas le faire parce qu'ils savent que c'est puni d'un an de prison. Donc en réalité, la prévention, elle est quand même compliquée lorsque vous avez un cadre très prohibitif avec des peines aussi lourdes. Ça, c'est la première chose. Sur la question du taux de THC, moi, il y a un exemple que je trouve plus intéressant qui est celui du Canada. Parce qu'on le sait, en Uruguay, ils ont eu une approche avec une intervention beaucoup trop forte de l'État et ça a échoué. Ce qui n'est pas le cas du Canada, où la mise en place de la légalisation encadrée en 2018 a permis de faire baisser la consommation, notamment des jeunes, des 15-17 ans. Donc, comme le disait votre auditeur, quand on a moins de 25 ans, les effets du cannabis sont beaucoup plus dangereux que quand on a plus de 25 ans. Donc ça, c'est une priorité de protéger ces jeunes-là. Et au Canada, où l'offre légale a été beaucoup plus diversifiée qu'en Uruguay, sur les taux de THC, sur tout un tas de sujets, eh bien, vous avez maintenant 75% des consommateurs qui se tournent vers le marché légal. Et donc, certains d'entre eux ont diminué leur taux de THC. La difficulté en France aujourd'hui, c'est que la seule offre disponible pour les consommateurs, ce sont effectivement des cannabis très dosés, avec même parfois 20-25% de THC. Alors, ils n'ont pas d'autre choix.
Et vers le marché légal, ou parfois non d'ailleurs, et on y viendra dans un instant, c'est le cas dans certaines villes aux États-Unis où, comme on se fait beaucoup d'argent et que c'est taxé, le marché légal est encore trop cher et qu'on continue à se fournir sur un marché parallèle, ce qui n'a donc pas beaucoup fait bouger les trafics. Je vous ai entendu, Monsieur Alvarez. Arnaud est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, je vous appelle de Marseille, où on a connu pour la seule année dernière 50 homicides liés au trafic de drogue. Moi, j'ai des enfants. Il y en a un, il va jouer au basket dans une cité. J'ai peur quand il y va. Et je ne comprends pas pourquoi l'État, au lieu de nous envoyer un ministre de l'Intérieur tous les 6 mois pour dire que on va mettre des moyens pour arrêter tout ça, pourquoi on n'égalise pas? Je soupçonne l'État de se défausser, de se dire qu'en fait, c'est de l'argent qui arrose les cités et que c'est une manière finalement d'acheter la paix sociale, ce trafic de drogue, alors qu'il me semble que la position la plus logique serait de légaliser, que l'État prenne le contrôle de ce marché et assure encadre avec du suivi psychologique, avec des campagnes d'information, la consommation et la vente des drogues douces.
Arnaud, merci beaucoup. Alors, je suis pas sûr que l'État achète la paix sociale, Caroline Janvier, parce que c'est loin d'être la paix autour des trafics. Moi, je suis assez curieuse de savoir, parce que vous, y compris à l'intérieur du coup prenez sens, vous êtes quand même assez seul avec ces arguments pro-légalisation. Je suis assez curieuse de savoir comment ça se passe, ce genre de débat-là, ou si vraiment on vous explique que c'est pas maintenant, pas le moment, et qu'on parlera d'autre chose plus tard. Est-ce que vous êtes toute seule sur votre îlot ?
Non, j'ai un certain nombre de collègues députés qui sont favorables à l'égalisation, qui le disent ou non publiquement. Je pense par exemple à Ludovic Mendes qui le dit publiquement, c'était le cas aussi.
Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y en a plein. Ça veut dire qu'on n'en parle pas publiquement en France de ce genre de sujet ?
Non, parce qu'en réalité c'est un sujet très compliqué, parce que d'une part la question de la drogue c'est quelque chose qui fait peur et donc qui est politiquement difficile à porter, parce que c'est facile de caricaturer, de faire encore une fois des amalgames sur ce sujet. Et par ailleurs, le fait de dire la légalisation encadrée permet de protéger notamment les jeunes, de faire reculer l'âge d'entrée en consommation, de diminuer tous les crimes qui sont associés au trafic, c'est assez contre-intuitif. Donc c'est assez compliqué à défendre. Et c'est plus facile de dire que la drogue c'est dangereux et donc on l'interdit, fermez le banc et on a la solution. Mais encore une fois, on voit bien que ça n'est pas efficace. Et moi je voudrais citer un autre exemple qui est celui du Portugal, qui a dépénalisé l'ensemble des drogues il y a plus de 20 ans et qui a 3 fois moins de consommateurs de cannabis qu'en France. Donc moi je me place uniquement sur le plan de l'efficacité de la politique publique et sur la question de la santé publique qui est vraiment l'objectif poursuivi par le Canada, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis où l'objectif était principalement celui de la sécurité et donc d'assécher le marché noir.
Jean-Claude Alvarez, une question pour vous, une remarque en tout cas, c'est celle de Florestan, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour la qualité de vos émissions et merci de m'accueillir. Je sais pas trop par où prendre le bout en fait au final, mais j'ai une réaction par rapport à votre intervenante juste avant, c'est que je pense pas personnellement par exemple que ça permettrait aux jeunes de ne pas fumer, de légaliser, parce que si quelqu'un veut fumer au final, il finira toujours par se fournir à un endroit ou à un autre, que ce soit par un adulte, on le sait pour les jeunes par exemple dans les écoles qui fument des clopes, quelqu'un pourra se fournir tout simplement par quelqu'un d'autre qui fume, qui est plus âgé. Après, je pense que le problème est ailleurs, c'est que depuis des années, en France par exemple, on nous dit que c'est interdit, mais on nous vend des grandes feuilles dans les bureaux de tabac, on nous vend des cartons, on nous vend des rouleaux. Et même sur Internet, par exemple, on peut trouver des graines. N'importe qui a une carte bleue peut aller acheter des graines sur des banques de données, quoi. Donc, je pense que le problème principal est plus l'hypocrisie et la répression et le fait qu'on ne soit pas qu'on soit pas éduqué en fait. Je pense que la vraie douleur est là. Et le vrai problème est plus là qu'ailleurs.
Et alors vous en êtes où, Florestan, par exemple ?
Moi, par exemple, je suis passé au CDD depuis quelques années. Mais c'est aussi parce que j'ai eu une suspension, mine de rien, par rapport à mon permis. Donc le problème est qu'après, le CVD peut détendre, par exemple, les problèmes, les douleurs, l'arthrose, par exemple, en ayant personnellement. Mais le fait de fumer un petit joint de THC, parce que j'en ai fumé pendant plus de 20 ans, je sais ce que c'est, et fumer un petit joint un soir tranquille chez soi, ça fait pas de mal, quoi. Enfin, personnellement, je veux dire, après, ça n'engage que moi, mais je veux dire que on est beaucoup dans ce cas-là, et je pense qu'il y a, pour rentrer dans un autre débat, il y a plus de gens qui rentrent bourrés, je pense, qui causent des accidents le soir, que de gens qui rentrent en après-midi avant de fumer un joint et qui se mettent dans un arbre.
Sans doute, et comme vous disiez tout à l'heure, cela dit, si un mineur veut se procurer de l'alcool, même si c'est interdit, il est capable de s'en procurer, exactement la même chose que vous disiez au sujet du cannabis ou autre. Jean-Claude Alvarez, le débat sur le CBD, le fait d'avoir substitué l'un pour l'autre. D'abord, je voulais savoir médicalement si effectivement on peut substituer l'un à l'autre, c'est-à-dire enlever le THC, la substance psychotrope, et avoir un produit qui est moins dangereux et qui, là, pour le coup, c'est démocratisé. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois employer. Est-ce que pour vous, c'est une porte ouverte au THC tout aussi dangereux ? Est-ce que c'est une alternative ?
Ah, ça n'a rien à voir, le THC et le CBD, c'est deux choses différentes. Le CBD n'a aucun effet psychotrope, alors que le THC a tous les effets psychotropes.
Mais voyez que notre ami Florestan, lui, a pu substituer l'un à l'autre, en fait, ou en tout cas partiellement.
Si on arrive à transformer, à ne plus utiliser du THC et d'utiliser uniquement du CBD, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que le CBD, on le sait très bien, aujourd'hui, ça contient, on autorise 0,3% de THC, donc il peut y avoir un certain nombre d'effets, malgré tout, malgré ces 0,3%. Et si on se limite à 0,3%, tout va bien. Mais parfois, on le voit bien, moi je dirige un laboratoire où on regarde un petit peu ce qu'on retrouve suite à des intoxications, et parfois on se rend compte qu'on n'est pas à 0,3%, on est largement au-dessus. Et surtout, on a maintenant les cannabinoïdes de synthèse. C'est-à-dire tous ces produits que l'on met sur le CBD, on fait croire que c'est du CBD et on finit aux urgences de l'hôpital parce qu'on a pris des cannabinoïdes de synthèse qui vont avoir les mêmes effets que le THC, puissance 10. On a des molécules qui sont jusqu'à 200 fois plus puissantes que le THC. Je ne sais pas si vous imaginez.
D'où l'idée de contrôler la marchandise, Caroline Janvier. Avant que vous répondiez à cette question, je voudrais vous soumettre celle de Véronique sur WhatsApp parce que ça revient très très souvent auprès de nos auditeurs ce soir. On parle de légaliser ou de dépénaliser. Est-ce que vous pouvez nous donner clairement la différence entre ces deux termes et l'implication concrète, surtout pour les consommateurs, entre légaliser et dépénaliser ?
Alors, dépénaliser, cela veut dire qu'il n'y a pas de peine en cas de possession, de consommation d'une certaine quantité de cannabis. C'est le cas au Portugal, quelqu'un est surpris avec une petite quantité de cannabis, on va lui proposer un accompagnement thérapeutique pour l'aider à gérer sa consommation.
C'est le cas des Pays-Bas aussi, où il y a l'autorisation,
alors,
il n'y a pas de légalisation.
Alors, Pays-Bas, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, il n'y a pas de dépénalisation dans le droit. Il y a une tolérance de fait de la consommation.
Ouais.
Donc c'est encore la légalisation.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, quand on dépénalise sans légaliser, on casse pas les trafics. Parce que de fait, on a le droit de posséder, mais il faut bien l'acheter à quelqu'un.
Voilà. Et c'est un peu le problème aux Pays-Bas, c'est que vous avez des organisations mafieuses, des organisations criminelles qui continuent de produire, de transformer et de fournir les coffee shops en cannabis. La légalisation, c'est le fait de rendre légale toute la chaîne de valeur, donc la production, la transformation, la distribution. C'est le cas notamment au Canada, et ça permet notamment à l'État de contrôler, d'établir un contrôle sanitaire des substances qui sont vendues, les taux de THC, de CBD. Et de contrôler aussi l'âge du consommateur, ce qu'on ne fait évidemment pas un dealer qui va non seulement en vendre à des mineurs, mais aussi proposer d'autres drogues.
Alors justement, bilan ou pas de ceux qui ont ce genre d'expérience et qui ont notamment celle de la dépénalisation, je voudrais qu'on écoute une note vocale qu'on découvre ensemble, et c'est celle d'Éric.
Bonsoir, j'aimerais savoir quel est le bilan de la dépénalisation en Hollande, qui existe depuis de longues années apparemment, avec les bars à Bédo. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à Eric pour sa note vocale. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres exemples, puisque l'Allemagne s'y met sur un autre modèle, désormais en Europe, c'est le contre-modèle, les Pays-Bas, parce que le bilan est pas bon, ou est-ce qu'on se dit, s'il faut quand même le regarder?
Oui, parce qu'il y a eu aussi un afflux de consommateurs étrangers qui sont venus consommer du cannabis aux Pays-Bas. Donc le Pays-Bas s'est retrouvé dans une situation avec une consommation très forte, sans avoir réglé la question de l'approvisionnement et donc sans avoir éradiqué ces organisations mafieuses. Donc ils sont un peu au milieu du guet.
Et puis surtout, il y a un tourisme du cannabis, et c'est précisément, je trouve ça intéressant, parce que c'est les leçons qu'on apprend les uns et des autres. Si la première chose qu'a dit l'Allemagne, c'est il n'y aura pas de tourisme du cannabis chez nous. On va voir justement dans quelle mesure les choses peuvent se mettre en place. Est-ce qu'on peut imaginer de notre côté, on parle de légalisation ou pas du cannabis en France avec Caroline Janvier qui est députée Renaissance, avec Jean-Claude Alvarez qui est le directeur du laboratoire de toxicologie du CHU de Garches, et Pierrot aussi qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, moi je voulais apporter mon témoignage. En fait, je suis infirmier et je suis ancien consommateur de cannabis. Hein. J'ai commencé à l'âge de 17 ans et puis j'ai arrêté, j'en avais 40. Je suis infirmier depuis une vingtaine d'années maintenant et là je suis spécialisé en psychiatrie et en addictologie aussi. J'ai longtemps travaillé dans la rue avec des autosupports dans les quartiers nord de Marseille. Et moi, ce que je constate maintenant en étant à l'intérieur des murs en hôpital psychiatrique, c'est qu'on a beaucoup de personnes atteintes de schizophrénie qui ont commencé très très jeunes, donc avant que leur cerveau soit formé, à consommer du cannabis, qui ont fait des bouffées délirantes aiguës, qui ont continué leur usage, parce qu'il n'y a pas un vendeur, pardon, qui va vous demander votre carte d'identité pour savoir si vous êtes majeur, et qui dérive petit à petit en schizophrénie. Et ça, c'est le contre-coup de l'interdiction. On est un petit peu dans le même cas de figure que on était avec l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Pour en revenir à l'Uruguay, que je connais fort bien, puisque je connais le continent américain depuis le Canada jusqu'à Ushuaïa, je me suis arrêté longtemps en Uruguay. Au moment où déjà Pepe Mujica avait légalisé le cannabis, je me suis permis de rentrer dans un commissariat, je leur ai expliqué mon boulot, et puis je leur ai dit, mais maintenant que le cannabis est légalisé, qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont répondu, ben on s'emmerde, hein, gringo. la réalité, c'est que oui, à l'époque, quand j'y suis passé, il y avait 3 pharmacies à Montevideo qui vendaient du cannabis, mais que la plupart des gens avaient autorisation de le planter. Et le taux de THC était correct pour eux.
On va revenir à ça. Merci beaucoup, Pierrot, pour votre intervention. Une chose d'abord, Jean-Claude Alvarez, parce que dans ce que nous a dit notre auditeur infirmier, on a retrouvé ce que disait l'un des précédents auditeurs, effectivement, notamment sur les gens qui peuvent être plus fragiles, plus fragilisés parce qu'ils sont plus jeunes. Si demain, Jean-Claude Alvarez, si demain on décidait en France d'une législation, vous diriez au moins voici les écueils dans lesquels on ne doit pas tomber. Et pour vous, le directeur du laboratoire de toxicologie, les écueils, ce serait quoi ?
Écoutez, ce que j'entends, je le comprends bien. On essaie de protéger nos jeunes. Mais c'est justement parce que ce sera interdit aux jeunes, aux mineurs, qu'il y aura toujours un marché parallèle. Qui vendra aux mineurs? Il faut arrêter de penser. J'ai entendu tout à l'heure le Marseillais qui disait « J'ai peur pour mes enfants parce que si on légalise, il n'y aura plus de marché parallèle. » Il y aura toujours un marché parallèle parce que ce sera interdit aux mineurs. Bien entendu, c'est ça le problème. Donc il faut éradiquer le fléau sans légaliser. La légalisation ne résoudra pas ce problème des mineurs, qui est un vrai problème.
Sauf que là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye, Jean-Claude Alvarez, éradiquer le phénomène. Et jusqu'à preuve du contraire, chez nous, mais comme ailleurs, hein, on n'y arrive pas, quoi.
Oui, mais on n'est pas très répressif. J'ai entendu tout à l'heure un an de prison. Mais ça, c'est sur le papier. J'ai jamais vu, je suis expert judiciaire, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre un an de prison parce qu'il consomme du cannabis. Pour prendre un an de prison, mais il faut avoir vendu 500 kilos. C'est-à-dire, donc, on n'est pas répressif. Je vous rappelle quand même que l'Europe a montré du doigt à la France qui n'est pas assez répressive.
Je croyais qu'on était sur le pays papier, le plus répressif. On était le pays le plus répressif en matière de cannabis et aussi le plus
fumeur. Sur le papier. Oui, sur le papier, mais malheureusement, on ne l'applique pas. Regardez maintenant, on a une amende. Vous avez vu le nombre de gens qui payent leur amende? Je crois que c'est 20 ou 30%. Donc, c'est ridicule. Donc, vous avez des amendes, mais en plus, ils ne les payent pas. Donc, bon, voilà, ce n'est pas de la répression. Là, depuis un certain temps, depuis un mois ou deux, là, oui, on est passé au niveau supérieur, au niveau répressif. On va voir ce que ça donne. Mais il faut bien savoir aussi que la consommation de cannabis diminue en France depuis 10 ans. Continuons ainsi. Et ne disons pas, ben c'est une plante extraordinaire, on va la légaliser, ça a pas d'effet. Si, ça a des mauvais effets, il faut continuer. La consommation Alvarez, diminue en France.
On a entendu ce que vous disiez, Jean-Claude Alvarez, et pendant que vous parliez, il y a Caroline Janvier qui faisait non, avec la tête. Juste un mot, Caroline.
Oui, juste vous répondre sur le fait que les mineurs, non, n'iront pas s'approvisionner au marché noir pour une raison très simple, et c'est le cas au Canada, où 75% des Canadiens achètent maintenant dans le marché légal. On a autour de 5%, je crois que c'est moins de 7% qui continuent à aller vers le marché noir. Donc en fait, la légalisation provoque un assèchement du marché noir, c'est-à-dire que il n'y a plus assez de marché pour les dealers. Et par ailleurs, au Canada notamment, il y a eu un durcissement des sanctions pour la vente de cannabis aux mineurs. C'est 14 ans de prison. Et vous pouvez, dans ce cadre-là, concentrer les moyens. En France, je rappelle, c'est 1 milliard d'euros par an, 1 million d'heures de nos forces de l'ordre, sur le respect de l'interdit de la vente aux mineurs et mettre des moyens sur la prévention. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Canada, encore une fois, la consommation des jeunes diminue. Donc c'est plus efficace. Et quant à faire respecter la peine d'un an de prison, c'est évidemment impossible. Quand vous avez 5 millions de consommateurs occasionnels, on ne peut pas imaginer créer 5 millions de places de prison. Donc en réalité, on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire en matière de lutte contre la consommation, puisque la réponse, elle se focalise vraiment sur les consommateurs. Et elle occupe, encore une fois, nos forces de l'ordre, beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'on continue dans cette logique-là.
Bonsoir Jeanne Barseguian.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, avec donc l'Allemagne juste de l'autre côté du pont et une expérimentation locale potentielle chez vous. Moi, je voudrais savoir si, en fait, ce que vous imaginez ressemble à ce qu'a imaginé votre voisin d'en face.
Oui, absolument. En fait, ma proposition, mais qui devrait être entérinée et accompagnée par l'État français, ce serait de pouvoir appliquer les mesures qui s'appliquent depuis hier en Allemagne, c'est-à-dire, vous l'avez dit, à quelques mètres de Strasbourg. Et en fait, cette proposition, c'est d'une part parce que en tant que territoire transfrontalier, la loi nous ouvre des possibilités d'expérimentation qui me sembleraient intéressantes d'explorer, justement parce qu'on a des particularités liées à cette situation transfrontalière. Et ensuite, parce que même si, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Allemagne, tirant les leçons des Pays-Bas, interdit le tourisme de cannabis, donc les Strasbourgeois n'iront pas dans la ville voisine, dans un coffee shop ou que sais-je, mais dans la pratique, on est quand même sur un bassin de vie commun où il y a des interactions tous les jours. Il y a des milliers de travailleurs frontaliers, il y a 3000 Français qui vivent à Kiel, la ville allemande voisine. Donc il y a des familles binationales. Donc de fait, les interactions, elles sont là.
Donc ça veut dire une législation, Jeanne Barseguian, ça veut dire une législation miroir, c'est-à-dire dans une potentielle expérimentation, 25 grammes de cannabis dans les lieux publics, 3 plans de culture à domicile et pas plus. Ça veut dire une législation miroir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, alors ce sera à l'État évidemment d'en décider, puisque je n'ai pas la compétence municipale pour pouvoir le décréter, mais je souhaite en tout cas faire cette demande auprès de l'État français, aussi auprès de l'Agence régionale de santé, parce que ce qui me préoccupe en tant que maire d'une grande ville, c'est la question de la santé publique. Moi aussi, je suis inquiète de voir de nombreux jeunes en prise aux addictions. Et à Strasbourg, on a été précurseurs depuis maintenant de nombreuses années sur la question de la réduction des risques, l'accompagnement des personnes en situation d'addiction. On a été une des premières villes françaises à mettre en place une salle de consommation à moindre risque, et donc on a une expertise des médecins qui localement peuvent accompagner les personnes qui consomment. Et donc l'objectif, c'est bien de réduire les risques, et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que les autorités sanitaires françaises s'emparent du sujet et nous accompagnent localement.
Est-ce que vous imaginez, Jeanne Barseguian, une forme forme de coffee shop qui serait effectivement différent, vous nous l'avez expliqué, de ce qu'il peut y avoir aux Pays-Bas, mais en Allemagne, par exemple, ils vont avoir ce qu'ils appellent des clubs, c'est-à-dire des jardins, une espèce de jardin partagé, et tout ça va rester évidemment interdit aux moins de 18 ans. Est-ce qu'on imagine une forme de coffee shop, en tout cas un endroit où on va se fournir dans un produit qui est donné, qui est visé, qui est vérifié?
Les clubs de cannabis mis en place en Allemagne ne sont justement pas des coffee shops.
Non, non, c'est comme des jardins partagés, en fait.
On s'y fournit. Donc moi, je trouve que le débat, d'ailleurs, qui a été en Allemagne assez mouvementé également, il est finalement l'aboutissement qui est cette loi est vraiment intéressant parce que il prend en compte, il cherche véritablement à contrôler la production, la distribution et la consommation. Et c'est ce qui me semble le plus efficace. Maintenant, la loi, elle vient d'entrer en vigueur en Allemagne hier. Moi, je pense qu'il sera intéressant d'observer aussi pendant quelques mois la manière dont ça va permettre de changer les pratiques, les usages. Et peut-être, comme le disait à l'instant la députée, d'assécher aussi une forme de marché noir. Ce sera vraiment intéressant pour nous d'observer ce qui se passe juste à côté.
Merci beaucoup Jeanne Barseillan, maire de Strasbourg. Merci vraiment. Pour pouvoir assécher, Caroline Janvier, il faut, on va le dire comme ça, il faut être autosuffisant en fait. Est-ce que on est tous capables, on verra effectivement l'exemple de l'Allemagne, est-ce qu'on serait, nous, d'être autosuffisants, au fond, dans ce que les gens, je ne sais pas si ce serait potentiellement, comme l'Allemagne, 3 plans par personne, c'est un peu plus dans d'autres endroits, ou peut-être un peu moins. Est-ce qu'on peut être autosuffisant? Autosuffisant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer. Pas besoin d'importer, ça veut dire qu'on réduit les trafics. C'est vraiment une pure question économique, mais qui a son sens aussi sur le cannabis.
Alors, oui, c'est possible, et le cas canadien est très parlant en ce sens. Dans le cas de l'Allemagne, la mise en place de clubs va avoir des limites à un moment donné, c'est clair. Et parce que pour concurrencer l'offre du marché noir, il faut des quantités suffisante, une qualité qui corresponde aux demandes du consommateur pour en effet éviter qu'il se tourne vers le marché noir, et il faut un prix qui soit aussi concurrentiel. C'est un rapport du Conseil d'analyse économique qui montre que il faut notamment, dans un premier temps, avoir un niveau de taxation très bas. Parle d'une durée de 2 ans.
Pour éviter que ce soit moins cher
pour assécher le marché noir. Et ensuite, vous pouvez prélever, et avec ces taxes, financer des politiques de prévention, comme on le fait, par exemple.
Parce que c'est l'un des travers aux États-Unis, par exemple. C'est tellement taxé. Exactement. Alors, ça rapporte énormément à l'État, mais tellement taxé que, du coup, les 2/3 des consommateurs se sont tournés vers le marché noir.
Oui, et puis il n'y avait pas vraiment de politique de santé publique aux États-Unis. L'argent qui est récupéré par les recettes récupérées par l'État servent à financer des routes, tout un tas de choses. Ah, donc, on n'a pas du tout la même approche.
Avec le chiffre, je le cherche, je crois que je l'avais sous les yeux, mais c'était, ça rapportait autour d'1 milliard à l'État du. Je crois que c'est l'État de la Californie. Enfin, ce sont des sommes qui peuvent être.
Sans doute. Pour la France, les projections, oui, c'est entre 2 et 2,8 milliards d'euros.
Ben, vous voyez, donc ce sont des sommes qui peuvent effectivement être colossales. Pierre-Alex est avec nous. Bonsoir, Pierre-Alex.
Oui, bonsoir, Fabien.
Vous écoutez.
Là, je voulais aussi insister sur le fait que le cannabis actuel est à peu près 40 fois plus dosé en THC qu'il y a 40 ou 50 ans. On ne parle pas du tout de la même plante. Et on manque cruellement de prévention en France. Personne ne se pose la question d'organiser des salles où on pourrait se faire des petites piqûres d'héroïne.
Le taux de THC, en effet, et là-dessus, Jean-Claude Alvarez, c'est des choses que vous voyez, vous. En effet, on ne parle pas du tout de la même chose. On parle de produits qui sont de plus en plus dangereux. Et j'entends bien votre inquiétude, vous, là-dessus, Jean-Claude Alvarez.
Nous, on fait de l'analyse de substances, hein, donc on voit bien l'évolution depuis 20 ans. Alors, c'est pas 40 ans, mais c'est 10, 20 depuis.
Mais c'est très gros quand même, ouais.
Oui, on a aujourd'hui des plantes qui sont nettement plus dosées. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le Canada.
Allez-y.
En fait, le Canada, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation, mais les chiffres qui viennent de sortir en 2023, les chiffres médicaux, j'entends, l'Ontario, l'Alberta, augmentation de 20% des cas d'empoisonnement et des troubles liés à l'usage du cannabis. L'Ontario, x13 le nombre d'admissions aux urgences pour hyperémèse cannabinoïde, c'est un syndrome qui est d'utilisation chronique, les femmes qui exposent leur fœtus x2, les visites à l'hôpital après ingestion de boulettes de cannabis chez les enfants x3, et la part des accidents de 3,8%, on est passé à 8,6%. Il ne faut pas dire que le tableau, il est rose au Canada. On n'entend que ça. C'est étonnant quand même.
Important.
Alors, il est rose parce qu'il n'y a pas eu d'évolution de la consommation, il n'y a pas eu d'augmentation, c'est vrai. Mais nous, de toute façon, on est déjà en haut, donc on risque pas d'augmenter encore. On est déjà les premiers, donc bon. Mais le tableau, il est pas rose, médicalement parlant. Et j'ai entendu parler des taxes également. Regardez le tabac et l'alcool. Hein. L'alcool, 4 milliards de taxes, ça coûte 8 milliards à l'État de frais derrière. Et le tabac, 13 milliards de recettes. Et on est à plus de 16 milliards de prise en charge des dégâts créé par le tabac. Ça ne rapportera pas d'argent, ça va en coûter.
Caroline Janvier, ces chiffres, il a raison, hein, Jean-Claude Alvarez, sur ces chiffres-là. Si, encore une fois, on imaginait une légalisation en France et qu'on ferait sur un modèle qui serait différent, qui serait un modèle français, un ersatz de modèle allemand, j'en sais rien, comment on fait pour pas tomber dans les pièges que nous a montré Jean-Claude Alvarez, hein,
bien,
pour éviter ces travers-là?
On fait la même chose que ce qu'on fait avec l'alcool. On met en place, on finance. Aujourd'hui, la prévention de la consommation de drogue, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an. C'est quasiment rien. Donc, on met en place de la prévention dès le plus jeune âge. On a des expériences qui ont montré que ça fonctionnait. De l'accompagnement pour les personnes qui sont dépendantes. De la sensibilisation en population générale. Donc, on met en place une vraie politique de santé publique qui est aujourd'hui la grande absente de ce débat-là, puisqu'on concentre encore une fois les efforts sur la criminalisation de la consommation, sur les interpellations de consommateurs, et d'ailleurs même pas sur l'éradication des trafics, puisque 81% des infractions liées aux stupéfiants concernent le consommateur et donc pas les organisations qui le produisent, qui trafiquent la drogue et qui déstabilisent des quartiers entiers.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
C'est vous qui aurez le mot de la fin, Guillaume, mais il faudra faire très très vite.
Très vite, d'accord. Écoutez, je suis heureux en tout cas d'entendre ce que je viens d'entendre, à l'exception du docteur Alvarez. Je trouve que tout le monde a une position que je rejoins complètement, et je trouve que c'est l'État en réalité qui doit devenir le dealer, entre guillemets. C'est un peu brutal de dire les choses comme ça, mais l'État doit contrôler la totalité de la filière, depuis la production jusqu'à la consommation, en établissant des cartes de consommateurs, bien sûr pour les adultes, et sous certaines contraintes, et avec des produits bien contrôlés.
Des états dealers. Merci beaucoup Guillaume, vous avez été parfait sur le timing. Caroline Janvier, est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un état dealer?
Non, je crois que d'un état responsable qui organise un problème de santé publique et qui gère ce problème sans se cacher derrière son petit doigt.
Allez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux, tous les trois, avec la maire de Strasbourg, de votre participation. Merci à tous pour vos très nombreux appels, comme chaque soir.